vous écoutez toujours CKUT 90.3 FM. Il est 17h47 et on va passer à la chronique des apatrides anonymes avec Simon cette semaine. Bonjour Simon.
Bonjour tout le monde. Ben, j'en profite pour souhaiter des apatrides une bonne radical queer semaine à tout le monde.
Merci.
On fait une petite parenthèse pour 10 minutes à peu près. On va parler d'immigration, de paranoïa nationale comme à chaque deux semaines. Quand même, je tenais à faire un petit lien peut-être avec la Radical Queer Semaine, parce qu'immigration, homosexualité, transgenre, LGBT, tout ça, il peut avoir des liens. Il y a beaucoup, par exemple, de demandeurs de statut de réfugiés qui veulent fuir la répression par rapport à leur orientation sexuelle dans leur pays. Et ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement, qui n'est pas enchâssé par des lois, qui n'est pas défini dans nos critères pour permettre à quelqu'un d'obtenir le statut de réfugié. J'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui parce que ça mériterait quand même une chronique complète, je pense, éventuellement. Donc, c'est dommage que j'ai pas pu la faire cette semaine. J'ai quand même deux brèves par rapport à tout ça. Il y a eu un vote du Parlement canadien récemment c'est un projet de loi d'un député néo-démocrate pour criminaliser la discrimination envers les personnes transgenres. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe à Ottawa, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le café, je sais pas si on bu de la bière, mais ça a été adopté.
Wow!
Et il y a même des ministres et des députés conservateurs qui ont appuyé la motion. Donc, ça va prendre forme de loi, ça va être précisé, ça va aller en lecture, ça va être écrit de manière plus législative, si on veut. On verra comment ça s'appliquera, mais c'est quand même une bonne nouvelle, je pense.
Ben oui, c'est incroyable. Les conservateurs peuvent faire ça, eux autres.
John Baird a voté pour ça.
Ben non.
Stephen Harper a voté contre.
Ça, ah ben quand okay, même. Ouais, ça me rassure, là.
c'est ça. Donc, rassurez-vous, exactement. Et peut-être une autre brève en lien avec tout ce qui peut être queer, radical, peu importe. Ça date de quelques semaines. C'était l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. On apprenait qu'ils finançaient à la hauteur de 545 000 $ annuellement, un groupe homophobe d'évangélisation en Ouganda. Mm. Donc, c'était sorti dans les médias, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler. Donc, il y a eu ce beau vote-là contre la discrimination envers les personnes transgenres, mais à peu près en même temps, on a le même ministre John Baird qui questionnait à ce sujet-là, a dit, ben écoutez, ce groupe-là qui s'appelle Crossroads Christians Communication, oui, on va continuer à les financer. Le financement va être renouvelé pour les années prochaines. Et nous, ben, c'est plutôt au mérite, au résultat qu'on évalue les demandes de subventions d'organismes. Donc, petite contradiction ici. Juste une petite statistique intéressante quand même. Depuis 2005, le financement des organisations, des ONG religieuses a quand même bondi de 42%. Donc, on espère que les coupures actuelles à l'ACDI vont faire en sorte que le gouvernement se tire dans le pied et qu'on ne pourra plus financer ce groupe-là. Donc aujourd'hui, on va rester principalement au Québec, au Canada. On va aller entre bonnes et mauvaises nouvelles, ce qui peut faire changer.
Oui, d'habitude, c'est juste mauvaise.
Oui, on est souvent des oiseaux de malheur aux apatrides anonymes, comme on dit, mais il y en a quand même des pas pires. Donc aujourd'hui, je tiens quand même à souligner, on est lundi 25 mars, c'est l'arrivée de la très longue marche, la marche Nishiyu, à Ottawa, qui est un peu dans la foulée du mouvement I Don't Know More. C'est la grande arrivée aujourd'hui. J'ai pas de nouvelles fraîches. J'ai essayé de rejoindre des gens de SSF et je n'ai pas réussi. Puis sur le web, j'ai absolument rien trouvé. Donc, mais quand même, on prévoit des célébrations toute la soirée. On prévoit qu'il y aura des choses devant le Parlement et dans les centres communautaires. Mais comme on est à Montréal ici, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, on n'a pas le temps de se rendre pour ce soir. Une autre brève, on se transporte à Québec, le PQ. Qu'on aime beaucoup. Malgré toutes les coupures en service, en infrastructure, on annonce la construction de 4 nouvelles prisons, donc une injection de 450 millions de dollars, 700 places supplémentaires, donc des prisons à Sept-Îles, Amos, Sorel, Robertval. Donc malgré les coupes à peu près partout, ben ça demeure. Une autre petite dépense superficielle, on n'a pas beaucoup de précision encore, c'est un groupe qui s'appelle Ceasefire qui a révélé qu'il y aurait une annonce quelque part comme quoi le gouvernement conservateur entend dépenser à peu près 1 milliard de dollars bientôt pour l'achat de drones d'attaque. La même technologie qu'utilise Obama au Pakistan entre autres où il y a eu plusieurs des centaines de civils qui ont été tués. Obama va avoir d'ailleurs beaucoup de difficultés à défendre ce genre de crime contre l'humanité, mais à Ottawa, on s'est dit « Ah ben, c'est une bonne idée. » Allons-y, malgré beaucoup de coupures aussi au niveau fédéral, la défense, ça reste toujours très subventionné.
C'est pour compenser le vote pour les personnes transgenres.
Oui, ben on va aller les tuer à la source.
Oui, c'est
comme ça, s'il y en a qui veulent obtenir le statut de réfugié, ben il n'y en aura pas finalement. Une autre petite niaiserie qui nous vient d'Ottawa, une dépense un peu moins chère, mais tout aussi stupide, une magnifique vidéo de sensibilisation au mariage frauduleux. Donc attention, nous, Canadiens, Canadiennes...
Il y a des pubs aussi dans les journaux, j'ai vu ça.
T'as vu ça?
Dans Le Devoir.
OK. As-tu vu la vidéo?
Non, la pub. C'est okay. Une pub dans les journaux.
Mais la vidéo est très courte, c'est 15 secondes. Ça s'appelle « Mariage frauduleux, une nouvelle conséquence ». Ça dit juste qu'on va de plus en plus surveiller ça et ça nous met en garde, nous, citoyens canadiens, citoyennes canadiennes, contre les immigrants qui voudraient profiter de notre naïveté pour immigrer au Canada, donc se faire parrainer si on est marié à un réfugié.
J'avais trouvé ça, la pub est très intéressante. Ces deux personnes, les traits des gens sont il n'y a pas d'ethnicité, tu sais, dans aucun des deux cas, c'est des personnes blanches, tu sais, pour vraiment pas subir aucune attaque raciste, genre, mais le contenu est profondément raciste, c'est vraiment impressionnant.
Ben, ça sous-entend un peu que quiconque tombe en amour et veut, mettons, s'établir au Canada pour fonder...
mais oui, c'est sûr.
Bâtir une relation ou une famille ou peu importe, ben, il y a des risques, là, attention. dans la vidéo, c'est pas racialisé. Ben, c'est des personnes blanches, mais c'est les petits bonhommes qu'on voit sur les gâteaux de mariage.
Ouais, c'est ça, mais c'est des bonhommes blancs.
Ouais. Mais qui sont quand même stéréotypés, là, le genre Ken et Barbie.
Oui.
Enfin. Une autre niaiserie des conservateurs. En fait, ça, c'est plus important en ce moment, plus grave quand même. Il y a un show de genre de télé-réalité. Qui va être présenté sur le National Geographic Channel, donc quelque chose qu'on aime bien, qui est une référence quand même au point de vue scientifique assez souvent. C'est un show de réalité, de télé-réalité qui va filmer des agents des services frontaliers, des agents de l'Agence des services frontaliers, en train de faire des interventions, que ce soit des raids, des enquêtes, des arrestations, des fouilles aux frontières. C'est calqué sur un show qui existe déjà sur le canal télé de National Geographic qui se passe en Australie, qui fait la même chose, là, qui suit en direct des interventions. C'est un peu étrange parce que, bien évidemment, pour filmer les gens, on a dû obtenir l'approbation du gouvernement canadien, donc du ministère de la Sécurité publique. Il y a un contrat qui a été rendu public grâce à une demande d'accès à l'information. Le contrat entre l'agence de services frontaliers et le producteur qui s'appelle Force 4 a été signé par Vic Taze lui-même. On demande aux personnes qui sont intimées, qui sont visées par les agents, on arrive sur les lieux avec non seulement les agents, mais une équipe de tournage. Les gens se demandent un peu, mais qu'est-ce qui se passe? On leur fait signer des décharges pour permettre la diffusion des images. Pour permettre de filmer, premièrement, et pour permettre la diffusion des images. On ne sait pas trop comment on obtient ces décharges-là, parce qu'évidemment, ce sont des gens souvent en situation précaire. On arrive là avec des gens armés. On leur fait signer des fois des dépositions. On fait ça sous pression. Ça peut être fait en cellule d'interrogation. Signez ça en passant, s'il vous plaît. Et à part les gens qui sont très, très, très au courant de leurs droits ou qui sont bien articulés ou qui parlent bien anglais, les autres vont tout signer, évidemment, et on fait un beau spectacle avec ça. Le premier show, ça a été le show entre guillemets, là, mais ça a été tourné lors d'un raid sur des chantiers de construction à Vancouver. On a suivi les personnes lors de leurs interpellations jusqu'à leur résidence où leurs proches habitent. On a un gros suivi de ça. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet, donc je ne sais pas s'il y a... Il y a une injonction quelque part qui empêche de montrer ça, mais sinon ça devrait être en ligne sous peu, assez rapidement. L'entente que Vic Taze a signée prévoit que l'Agence des services frontaliers a le dernier mot sur les images diffusées et sur le montage final. La mission de l'émission, je vais vous lire ça, c'est suivre les agents des services frontaliers alors qu'ils interceptent des personnes suspectes et de la contrebande à travers le monde dans le but d'assurer notre sécurité et de protéger notre santé, notre main-d'œuvre et nos écosystèmes. Donc, rien de moins que ça.
C'est les écosystèmes.
Écosystèmes, je ne sais pas si c'est utilisé dans un sens environnemental ou social. C'est, En tout cas, c'est un bon pitch de relations publiques quand même. Donc, ça reste un puissant levier de propagande, si on veut, pour le gouvernement conservateur, pour son agenda sécuritaire extrêmement paranoïaque. Le contrat ne précise pas si le gouvernement a payé pour ça. Donc, on ne le sait pas. Il y a une petite pétition en ligne, pour ce que ça vaut, les pétitions en ligne, mais en tout cas, ça prend quand même 45 secondes à signer. Ça s'appelle « Cancel the reality show Border Security ». C'est sur le site change.org. Il me reste...
Il te reste un petit moment.
Un petit moment.
Oui, tu as deux petites minutes.
OK, je vais finir avec une grande nouvelle qui est passée pas mal sous silence quand même. Donc, on va passer de Vancouver à Toronto. Il y a eu un vote surprenant, à peu près aussi surprenant que celui à Ottawa sur la criminalisation de la discrimination envers les personnes transgenres. Toronto est maintenant une ville sanctuaire. C'est un concept qui existe aux États-Unis beaucoup, en Europe probablement aussi. C'est-à-dire que il y a eu un vote massif des conseillers municipaux pour approuver ça. Ça veut dire que quiconque, peu importe son statut ou son absence de statut, peut utiliser librement tous les services municipaux sans se faire demander si vous êtes en situation irrégulière ou non. Les employés municipaux n'ont plus le droit de demander. En tout cas, je pense que c'est une grande avancée. Mm-hmm. Aux États-Unis, comme je disais, ça existe déjà dans beaucoup, beaucoup de villes, des grandes villes comme Los Angeles, New York, Chicago, certains États, toujours les mêmes, un peu plus en avance que les autres, comme Vermont, Maine, Oregon, mm-hmm. des endroits comme ça. Donc, mais quand même, pour Toronto, il faut le souligner, c'est la première entité administrative au Canada à le faire. Il n'y a aucune province, aucune ville à date qui avait adopté une telle politique. Et, qu'est-ce que ça signifie en gros? C'est, comme je disais, un accès complètement libre à tous les services municipaux, que ce soit centre communautaire, centre culturel, centre de loisirs, bibliothèque, les transports, c'était déjà le cas. On peut obtenir de l'aide au logement. Dans certains cas, ça peut faciliter l'accès à l'école primaire pour les enfants des personnes en situation irrégulière ou des personnes sans papier. La police aussi, si vraiment vous y tenez. Sauf que dans ces cas-là, je pense pas que la police va taire votre identité ou quoi que ce soit.
Ils vont amener la caméra. Puis
Ce serait risqué. Pour une personne irrégulière qui a besoin d'aide urgente, je sais pas si c'est une bonne idée d'appeler la police. Parce que dans les faits, c'est pas nécessairement rose comme mesure. Parce que comme je disais, ça se limite aux services municipaux et sur le territoire de la municipalité de Toronto. Donc, sauf qu'on en sort, cette politique-là ne s'applique plus. Mais c'est quand même un grand territoire. On estime à peu près à 200 000 personnes sans papier sur le territoire de Toronto seulement. Comme je disais, pour les services provinciaux, la santé, les normes du travail, pour les services fédéraux comme citoyenneté, assurance emploi, ça ne marche pas. Puis en plus, tu sais, dans la pratique, dans la réalité, un employé zélé ou, mettons, un policier raciste, peut-être qu'il va essayer de tirer l'information, il est tenu légalement de la transmettre à Immigration Canada. Je constate qu'on est à court de temps, donc oui. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas grave, j'ai plein de sujets pour une prochaine chronique.
Oui, merci beaucoup.
Donc, une excellente Radical Queer semaine encore une fois.
Merci beaucoup.
Ça